Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1784 sous la forme d'une réponse à une question posée dans une revue berlinoise, « Qu'est-ce que les Lumières ?» est un court essai politique et philosophique de Kant. Le texte ne propose pas une histoire du mouvement des Lumières, il en formule plutôt le principe directeur. Pour Kant, devenir éclairé signifie sortir de la minorité intellectuelle, soit la dépendance envers des autorités qui pensent, jugent et décident à la place des individus. Cette sortie exige courage, exercice du jugement et liberté de communiquer publiquement ses idées. L'essai associe ainsi une exigence personnelle, pensée par soi-même, à une condition institutionnelle, la libre circulation des arguments. Kant examine aussi une difficulté centrale, un individu peut devoir remplir une fonction et obéir à certaines règles, tout en conservant le droit de critiquer publiquement ses règles comme savant et citoyen. Par sa concision et la précision de ses distinctions, ce texte demeure une référence pour penser autonomie, liberté intellectuelle et réforme politique graduelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la minorité intellectuelle comme dépendance volontaire. Kant définit la minorité non comme un âge biologique, ni comme une faiblesse naturelle de l'intelligence, mais comme l'incapacité à employer son propre entendement sans direction extérieure. L'entendement désigne ici la faculté de juger, de distinguer et de raisonner. La formule est exigeante parce que Kant attribue souvent cette condition à la propre responsabilité des personnes concernées. Elle dispose en principe de la capacité de penser mais renonce à en faire usage. Il identifie deux ressorts de ce renoncement, la paresse, qui fait préférer le confort des solutions fournies, et la lâcheté qui fait redouter les erreurs ou les conséquences de l'indépendance. Le livre, le directeur spirituel ou le médecin deviennent alors des substituts à la délibération personnelle. Kant ne condamne pas le savoir spécialisé ni le conseil compétent. Il vise la délégation totale du jugement lorsque le recours à une autorité dispense de toute réflexion. Cette analyse permet de comprendre que la dépendance intellectuelle est aussi entretenue par des tuteurs, individus ou institutions, qui ont intérêt à présenter l'autonomie comme dangereuse. La minorité devient dès lors une habitude sociale, celui qui n'a jamais exercé son jugement peut se croire incapable de marcher seul. Les Lumières désignent le travail difficile par lequel cette habitude est défaite. Deuxièmement, sapere aude est le courage de penser sans tuteur. La devise latine sapere aude condense le projet de Kant, avoir le courage de se servir de son propre entendement. Son importance tient au fait que les Lumières ne se réduisent ni à une accumulation de connaissances, ni à une opposition mécanique aux traditions. Une personne peut être instruite et rester mineure si elle répète des opinions sans les examiner. Inversement, le premier geste éclairé consiste à accepter la responsabilité de son jugement, avec le risque de se tromper et l'obligation de corriger ses erreurs. Kant insiste sur la difficulté de cette conquête individuelle. Des règles, des formules et des croyances reçues peuvent aider à organiser la vie, mais elles deviennent des entraves lorsqu'elles remplacent définitivement l'exercice de la raison. Son propos ne glorifie donc pas une spontanéité arbitraire. Penser par soi-même demande de soumettre les raisons disponibles à l'examen, de comparer les arguments et de rendre ses positions discutables. Le courage requis est intellectuel autant que moral, il faut résister à la commodité de la conformité et à la peur du jugement social. Kant observe toutefois qu'un public peut progresser plus sûrement qu'un individu isolé. Dès que certains membres peuvent raisonner librement, il contribue à diffuser une appréciation plus juste de la valeur et de la vocation de chacun. L'autonomie est ainsi une pratique personnelle qui possède des effets collectifs. Troisièmement, la liberté de l'usage public de la raison. La condition décisive de la diffusion des Lumières est, selon Kant, la liberté, plus précisément la liberté de faire un usage public de sa raison. Cet usage est public lorsqu'une personne parle ou écrit en tant que savant devant un public de lecteurs afin d'examiner une question et de proposer des arguments. Il doit rester libre car la critique ouverte permet aux erreurs, aux préjugés et aux règles injustifiées d'être discutées. Kant vise explicitement les injonctions qui interdisent de raisonner dans les domaines militaires, fiscaux ou religieux. Elles transforment les citoyens en exécutants et empêchent les institutions de se corriger. La liberté défendue ne se confond pas avec le droit de se soustraire immédiatement à toute obligation. Elle désigne la possibilité de publier une critique argumentée, y compris à propos des normes auxquelles on est soumis. Cette insistance sur la publicité est essentielle, un jugement autonome ne doit pas demeurer un simple sentiment privé. Il entre dans un espace de confrontation où chacun peut en éprouver la validité. Kant associe donc les Lumières à des conditions concrètes de communication, notamment la liberté de publication. Son analyse donne à la raison une portée civique. La discussion publique ne garantit pas que toute opinion soit juste, mais elle rend possible une amélioration progressive des connaissances et des institutions. Sans cette ouverture, la réforme dépendrait seulement de la décision des autorités. Quatrièmement, obéir dans une fonction et critiquer comme savant. La distinction entre usage privé et usage public de la raison est la partie la plus nuancée et la plus souvent discutée de l'essai. Kant nomme usage privé celui qu'une personne fait dans le cadre d'une charge déterminée au service d'une institution ou d'une fonction civile. Dans ce contexte, certaines règles communes peuvent exiger une exécution coordonnée. Un officier, un fonctionnaire ou un ministre du culte ne peut pas suspendre à chaque instant le fonctionnement de sa tâche en refusant toute directive. Kant admet donc que l'obéissance fonctionnelle puisse être limitée par des devoirs précis. Cependant, cette limitation ne doit pas supprimer l'usage public. La même personne peut, comme savant, examiner publiquement les règles de son institution, en montrer les défauts et suggérer des réformes. La distinction ne valorise pas une soumission aveugle, elle cherche à éviter le choix simpliste entre discipline sociale et liberté de pensée. Une société peut maintenir une organisation commune tout en laissant circuler la critique rationnelle qui la transforme peu à peu. Le cas des affaires religieuses est particulièrement important pour Kant. Aucune communauté, aucun corps ecclésiastique ne peut légitimement imposer à jamais un symbole de foi qui interdirait tout examen ultérieur. Un engagement collectif qui rendrait impossible le progrès de la raison serait nul dans son principe. Les générations futures conservent le droit de réviser ce qui entrave leur maturation intellectuelle. En dernier lieu, un progrès graduel plutôt qu'une révolution des esprits, Kant distingue soigneusement un siècle éclairé d'un siècle de lumière. Il ne prétend pas que ses contemporains aient déjà atteint une maturité générale dans tous les domaines, notamment religieux. Il soutient plutôt que les conditions d'un progrès sont en train de se développer lorsque la liberté publique de raisonner est protégée. Cette prudence révèle une théorie graduelle de la transformation historique. Une révolution peut renverser un pouvoir personnel ou mettre fin à une oppression, mais elle ne produit pas à elle seule une réforme durable des manières de penser. Les anciens préjugés peuvent être remplacés par de nouveaux, puis servir à diriger une masse qui ne juge pas par elle-même. Les Lumières exigent donc une évolution des dispositions intellectuelles, rendue possible par le débat, l'éducation de l'esprit et l'examen continu des autorités. Kant relie cette progression à la dignité humaine, un gouvernement éclairé reconnaît que les êtres humains ne sont pas de simples machines administrables, mais des agents capables de raisonner. Cette perspective reste politique sans appeler à une rupture immédiate de tous les liens civils. Elle mesure la qualité d'un ordre social à sa capacité de tolérer la critique et de permettre des révisions. Le texte défend ainsi une réforme des institutions par la publicité des raisons, tout en refusant de confondre autonomie et désordre. Sa modernité tient à cette articulation entre liberté critique, responsabilité et temporalité longue du changement. En conclusion, qu'est-ce que les Lumières ? Convient particulièrement aux lecteurs qui souhaitent aborder Kant par un texte bref, direct et politiquement concret. Il intéressera les étudiants en philosophie, en histoire des idées ou en sciences politiques, mais aussi toute personne qui veut clarifier les rapports entre expertise, autorité, liberté d'expression et responsabilité du jugement. Le bénéfice principal de la lecture est de fournir des distinctions encore opératoires, dépendre d'un conseil ne signifie pas nécessairement abandonner son jugement. Critiquer publiquement une règle ne signifie pas automatiquement refuser toute fonction commune, et posséder des informations ne suffit pas à penser de manière autonome. Le texte force ainsi à examiner les conditions sociales qui favorisent ou entravent une discussion rationnelle. Par rapport à de nombreux manifestes des Lumières, l'essai se distingue par son extrême concentration conceptuelle. Kant ne se contente pas de célébrer la raison ou de dénoncer l'absolutisme. Il analyse les habitudes de dépendance, le rôle des tuteurs, les exigences de la publicité et la tension entre obéissance institutionnelle et critique savante. Sa position est également plus nuancée qu'un appel abstrait à l'indépendance totale, elle cherche les modalités par lesquelles une société peut se transformer sans confondre liberté et absence de règles. Ce court écrit constitue donc une excellente porte d'entrée dans la pensée politique de Kant et dans les enjeux durables de l'autonomie intellectuelle. Sa force réside dans une formule simple mais exigeante : une société progresse lorsque chacun peut apprendre à raisonner en son nom et exposer publiquement ses raisons. Si vous souhaitez soutenir Emmanuel Kant, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.